Mémoire d'une aveugle, deuxième partie. On juge que nos amoureux baissèrent le ton. La peur les prit. Roquelaure versa des larmes sans fin et trembla pour son époux. Son père cria plus haut que la duchesse, et ils y allaient de façon à amener le déshonneur public de leur fille et à conduire le prince de Léon à l'échafaud. Le roi ne voulait ni l'un ni l'autre. Il leur fit parler sous main. Leurs parents, leurs amis intervinrent et proposèrent un arrangement. Mais les Rohans entendaient mieux profiter de la position. Ils ne se souciaient guère de leur fils. Un joli petit exil leur eût mieux convenu pour lui que ce mariage. Ils s'en fussent ainsi débarrassés honnêtement. Cela fit des négociations infinies. Le roi, poussé par Madame de Soubise, toute dans les intérêts de son neveu, fit ce qu'il n'avait pas fait de sa vie. Il intervint par son autorité, ordonna qu'on les mariât tout de suite pour en finir, et il fallut obéir envers et contre tous. Roquelaure était gardé à vue. On la tenait, nuit et jour, entourée de 5 ou 6 religieuses pour qu'elle ne se sauvât pas. Les deux familles, rechignant, prêtes à se jeter l'une sur l'autre, vinrent à la Madeleine. On dit la messe, on maria les jeunes gens tout de bon, on leur donna pour tout pécule 15 000 livres de rente, et puis on les hucha dans un carrosse bien empaqueté, avec la bénédiction tronquée de leurs augustes parents, en leur disant « Allez où vous voudrez, vous n'aurez rien de nous ». Ils s'en allèrent à la campagne, et là, ce magot et cette magotte inventèrent de se faire des héros de roman, et de s'adorer, mais de s'adorer comme Cyrus et Mandane. Cette maison devint ce que tout le monde l'a vu depuis, une vraie curiosité, une maison de bohème. Ils commencèrent par acheter au duc de Lorge les Bruyères, ce berceau de leur bonheur, et cela en lui disant qu'il ne le paierait peut-être qu'à ses petits-enfants. « Tant que nos parents tiendront leur bourse, nous vivrons chichement, et tant qu'ils vivront, ils tiendront leur bourse. » Le duc de Lorge s'en contenta, leur céda les Bruyères, qu'ils embellirent fort, et où ils roucoulaient comme des tourterelles. Ce qu'il y eut de rare, c'est qu'ils ne se rendirent point ridicules, malgré la bosse et la laideur. Il fallait pour cela tout leur esprit. On se fit à aller chez eux, et les Bruyères ne désemplirent pas de la plus haute et de la meilleure compagnie. Ils se mirent bravement sur un pied de tendresse, de fidélité qu'on accepta. « Mon mignon, ma mignonne !» Cela passa en proverbe, et nul ne s'en moqua. Ce fut pour le mieux. Ajoutez que, malgré cette adoration perpétuelle, ils se chamaillaient du matin au soir. Ils n'étaient jamais d'accord, et ils se disaient les choses les plus piquantes, toujours accompagnés du mignon et de la mignonne, avec une bouche en cœur dont ils ne se départaient point. Il y avait de quoi rire aux larmes. Ils en riaient eux-mêmes quand c'était passé. Leurs 15 000 livres étaient une goutte d'eau dans la rivière. Ils en dépensaient 6 fois autant, car ils ne se privaient de rien et recevaient toute la terre. Aussi, après les dettes, vinrent les expédients, et ensuite la quasi-misère. Monsieur et Madame de Rohan vécurent presque aussi longtemps qu'eux, et s'obstinèrent à ne leur rien donner du tout. Jamais Don Juan ne fut plus beau avec Monsieur Dimanche que le prince et la princesse de Léon avec leurs créanciers. Jamais Mascarille et Scapin n'usèrent de plus de subterfuges pour obtenir un crédit. J'assistai plusieurs fois à ces scènes, et c'était de véritables parties de plaisir. « Mon mignon, mon beau prince !» disait ma compagne. « Il y a là le carrossier qui veut absolument enlever le berlingot qu'il vous a vendu l'année dernière. Je ne sais comment l'apaiser. Il le faut cependant. Nous ne pouvons aller à pied à Versailles. Convenez que monsieur votre père et madame votre mère sont de bien désagréables gens de garder votre bien et de vous réduire à semblable nécessité. » « Ma mignonne, les vôtres ne valent guère mieux, je pense. Et ne savez-vous pas que le maître d'hôtel et le chef me poursuivent depuis le matin pour leur mémoire? Ils jurent que si on ne les paie pas aujourd'hui, ils ne donneront pas à souper ce soir à notre compagnie. Ce serait joli, qu'en pensez-vous? Il faudrait apaiser ce carrossier maudit. Il faudrait souper, madame, sans compter votre faiseuse de bonnet qui me harcèle nuit et jour. Oh, nuit et jour, reprit-elle avec un sourire qui ne manquait pas de fatuité. Elle était ici à 3 heures du matin hier. Et vous ne l'avez pas vue, j'espère? Par exemple. Mais le souper. Mais le berlingot. Envoyez-moi le carrossier rebelle. Envoyez-moi le maître d'hôtel et le cuisinier. C'était alors un chassé-croisé fort comique. Le prince entretenait le faiseur de voiture, l'éblouissait de phrases et finissait par lui laisser emmener, comme une grande faveur, une vieille chaise de voyage et 3 brouettes qui se trouvaient sous la remise. Il se vanta fort de cet arrangement, dont la princesse, comme à l'ordinaire, se montra furieuse. Il est vrai qu'il n'accueillit pas mieux les atermoiements avec les gens d'office. « Eh bien, soupera-t-on » lui demanda-t-il dès qu'il la vit. « Sans doute, » répliqua-t-elle d'un air placide et sûr d'elle. « Y a-t-il de l'indiscrétion à vous demander avec quoi ?»« Non, pas. Nous avons acheté un veau. »«
Un veau tout entier ?»«
Oui. » »«
Mais qu'en ferez-vous, pour l'amour de Dieu ?»
« Mon mignon, on le mangera ce soir ou demain, on le mangera tout entier, jusqu'à la peau, jusqu'à la queue, et cela à de telles sauces qu'on s'en léchera les doigts. » Et elle lui fit le menu le plus grotesque, le plus complet, des façons diverses dont le veau devait être mangé, et des déguisements qu'il allait subir. Rien n'était plus ingénieux et plus drôle. Je m'en tenais les côtes. Le prince écumait de fureur. Ce fut bien pis encore.
« Mais mignonne, mignonne, ce veau est-il payé, du moins ?»«
Mon beau prince, c'est là ce que j'ai fait de mieux, » répliqua-t-elle en minaudant suivant son habitude. « J'ai donné au maître d'hôtel 3 de nos vieilles perruques à la brigadière, un jonc pelé et l'habit de velours que vous tachâtes l'autre jour. N'est-ce pas magnifiquement agir ?» Il y eut un déluge de « mignonne » et d'autres adjectifs. Et la bosse de la princesse riait, car cette bosse était intelligente. Je ne sais comment cela se faisait. Cette bosse était alternativement triste et gaie, drôle, bouffonne, désespérée à ne s'y pas tromper. On savait l'humeur de la princesse quand on la voyait par derrière. Elle avait là-dessus des discours et des théories incroyables. Ce fameux jour du veau, à peine était-on sorti de cet écueil, qu'il en survint 1000 autres. La cour était pleine de créanciers, criant, hurlant. La princesse, le prince, leurs gens qui les aimaient, allaient des uns aux autres pour les apaiser par des promesses et des menaces. Et c'était ainsi tous les jours, jusqu'à 6 heures. Lorsque le marteau frappait, les créanciers disparaissaient sans qu'il fût besoin de les mettre dehors. Ils étaient dressés à cela et savaient qu'ils devaient faire place à la compagnie qui venait, la plus grande et la plus choisie. « Ah, mon Dieu, mignonne !» dit tout à coup le prince. « Il fait un froid de chien et point de bois. Comment se chauffera-t-on »
« J'y ai pourvu !»
répondit la bosse effrontée. « Ne vous tourmentez pas !» En effet, en entrant dans la salle à manger, nous vîmes une flamme superbe qui ne se ralentit pas un seul instant. Et cependant, on eût grelotté. N'étaient l'esprit et le veau servis à point, et les vins de Monsieur d'Argenson qu'on buvait à plein bord. Il en prêtait. Après le souper, j'eus la curiosité de sonder cette énigme. J'ouvris la porte du poêle et j'y trouvai une lampe. Cette maison dura ainsi près de 30 ans. Pendant tout un carême, on y vécut de beurre de Bretagne. Lorsqu'il arrivait d'aventure quelques bons morceaux, M. de Léon le prenait et ne s'en cachait point. Cependant, il y avait foule quelquefois. Presque tous les jours, 20 personnes à souper aux Bruyères, et cela sans être attendu. La table et les mets étaient élastiques. À la mort de leurs parents, ils payèrent tout. Le prince mourut le premier. La princesse eut la riche succession des Roquelaure avec la princesse de Ponce, sa sœur. Elle devint dès lors si avare qu'elle marchanda sa bière la veille de sa mort. Comme on change. Chapitre 5. J'ai dit que l'histoire de l'enfant Jésus de Cire avait eu une grande influence sur le reste de ma vie. Voici comment. C'est assez curieux pour valoir explication. Nous avons le malheur d'être nés dans un siècle philosophique qui veut tout expliquer, où des enfants viennent au monde en raisonnant. C'est comme une épidémie répandue sur les croyances pour les détruire toutes, les unes après les autres, et Dieu sait ce qui en résultera pour nos neveux. À propos de cela, j'ai les miens dans mon antichambre qui font un bruit à réveiller les sept dormants. J'ignore ce qu'ils croiront, mais ils me forcent à ne pas douter de leur présence chez moi. Ce petit peuple est bien ennuyeux pour une pauvre aveugle, à laquelle il ne reste que les oreilles pour dédommagements. Cette disposition de ce temps-ci et ses incertitudes pour l'avenir sont peintes par ce mot qu'on prête à Louis XV. « Mon successeur s'en tirera comme il pourra, cela durera bien autant que moi. » Le président Hainaut, qui vivait dans l'intimité du roi, a toujours prétendu que cela n'était pas vrai et que Louis XV était incapable de ce mauvais sentiment. Quant à moi, je l'ignore. Ce qu'il y a de sûr, c'est que la démolition est partout et que je ne vois rien s'élever autour de nous à la place. C'est triste, je l'avoue, pour ceux qui réfléchissent. Je n'ai cessé de dire à mes amis les philosophes « Mais si vous nous démontrez que nous sommes absurdes, que nous l'avons toujours été en croyant à la religion, en gardant les principes, les usages de nos pères, au moins enseignez-nous autre chose à la place. On ne peut faire ainsi table rase sans vous laisser une fiche de consolation. » « Madame, les hommes ne doivent pas avoir besoin de cela. Ils doivent tout comprendre, tout analyser par la force de leur intelligence, en s'en rapportant à la nature seule, à la bonté du Créateur, sans s'embarrasser de ce fatras d'idées saugrenues auquel on a donné le nom de religion, de loi. Nous venons pour détruire la forêt des préjugés. C'est donc pour cela que vous faites tant de fagots ? Leur répondais-je. Ils m'en ont beaucoup voulu pour ce mot, d'autant plus qu'il a couru les cercles et les soupers. Vous les verrez à l'œuvre, et vous jugerez si je me trompe. Enfin, tant il y a, car je crois, Dieu me pardonne, que la manie du raisonnement me poursuit. Tant il y a que, pour en revenir à la figure de Cire, après en avoir beaucoup ri, après m'être moqué de la sœur Marie des Anges, de ses ex-votos, de ses prières devant une poupée de mode, la réflexion suivit. Je me pris à penser, un beau soir, que toutes les images, toutes les idoles, pourraient bien être aussi respectables, et que si l'on en cherchait l'origine, il y aurait peut-être au fond de tout cela un paganisme déguisé. De là au doute, il n'y avait qu'un pas. En attaquant les symboles, j'en vins à la vérité, et je me demandais si ces dogmes, si ces mystères, si toute cette religion catholique, enfin, était autre chose qu'une allégorie, qu'une nécessité imposée comme un frein aux passions des masses, et bonne pour punir ceux qui ne pensent pas au-delà, que le diable effraie, qui se voit à la moindre faute, fichés au bout de sa fourche et jetés dans la fournaise, où il vous retourne ni plus ni moins qu'un beignet dans la poêle. Ces pensées mûrirent dans mon jeune cerveau, aidée d'une amie que j'avais, Mademoiselle de Beaumont, la plus songeuse fille qui se pût trouver. Nous ergotions des heures entières sur des questions que nous ne comprenions point, et nous les déclarions inadmissibles uniquement à cause de cela. Il en résulta pour nous des inconvénients graves. Au lieu de prendre des attaches à ce qui nous était appris, nous le dénigrâmes. Ces pauvres sœurs, qui ne savaient enseigner qu'une chose, l'amour de Dieu et de ses préceptes, perdirent justement leur temps et ne firent que deux incrédules, deux esprits forts, ainsi qu'on dirait aujourd'hui, et cela sur la fin du règne de Louis XIV, à une époque où la dévotion régnait sans partage. Jugez. On ne s'en aperçut pas d'abord. Nous continuâmes à suivre les autres à l'église, nous fîmes comme elles extérieurement. Nous gardâmes pour nous nos résolutions et nos révoltes intérieures jusqu'au moment d'une retraite, avant je ne sais quelle fête solennelle où l'on nous voulut faire rester en prière la moitié de la journée, méditer le reste, jeûner ensuite et nous confesser à un confesseur extraordinaire par-dessus le marché. Nous n'eûmes pas la patience d'aller jusqu'au bout, et un matin, je refusai tout net de me rendre à la chapelle en disant à la sœur Marie des Anges que c'était assez de momeries comme cela, et que Beaumont et moi, nous n'en voulions plus.
« Miséricorde ! » s'écria la bonne sœur. « Qu'est-ce que dit cette petite fille ? Qu'est-ce qu'elle pense ? Des momeries ? »
« Oui, des momeries, et vous en serez vite convaincue si vous me voulez écouter. »
Et me voilà lui développant mes principes, mes idées, ma théologie, laquelle n'avait guère le sens commun, je l'avoue. Me voilà dénigrant toute chose, abattant ce qu'elle adorait, et développant ce que nous avions élaboré à grands frais de raisonnement, aidé de livres très abstraits sur le dogme, qu'on avait le tort de mettre entre nos mains inhabiles, et qui ne pouvait servir à rien, si ce n'est à nous égarer. La sœur tombait de son haut. Elle alla en chercher d'autres pour m'entendre, et avant ma conclusion, toutes s'étaient enfuies en faisant des signes de croix. L'abbesse le sut une heure après, et me manda chez elle, où je débitais mon chapelet avec la même assurance.
« Malheureuse ! » s'écria-t-elle. Que dira madame de Chanron en apprenant que sa nièce est une impie? Elle est capable d'en mourir de chagrin.
Ce mot me chatouilla le cœur. J'aimais fort ma tante. Je faisais tout en but de lui plaire. Et ses lettres de félicitations étaient pour moi le nec plus ultra de la gloire. Madame l'abbesse le savait, et elle croyait porter un coup mortel à mes doutes en montrant combien ma tante les désapprouverait. Mais il s'agissait là de mon orgueil, ou plutôt de ma vanité de raisonneuse, et je ne pouvais céder ainsi. J'osai répondre, et de telle sorte que la révérende mère s'en voila le visage.
« Retournez dans votre chambre, mademoiselle, et restez-y. Vous avez un esprit dangereux. Nous ne pouvons vous laisser fréquenter vos compagnes, que vous pervertiriez sans doute, et nous vous interdisons particulièrement mademoiselle de Beaumont, que vous avez déjà persuadé. Vous vous nuiriez l'une à l'autre. Allez, mademoiselle, je vais vous faire recommander aux prières de la communauté. Vous en avez grand besoin. »
De là date mon changement d'opinion, changement que je n'ai cessé de déplorer et que je déplorerai toute ma vie, car, en admettant même que je fusse dans l'erreur, n'est-ce pas un bonheur très grand que de prendre pour or les feuilles de chêne? On me séquestra dans ma cellule étroite, n'ayant pour compagnie que sœur Marie des Anges, qui ne me grondait pas et qui me plaignait. C'était un cœur tendre et droit. Elle voyait dans la religion une consolation, un refuge. Elle y voyait le seul bonheur qu'elle eût rêvé dans son cloître. Elle y voyait l'avenir de l'autre vie et ne songeait point à la grillade éternelle qui menaçait les incrédules. Cette âme pure ne pouvait, même en passant, jeter un regard sur l'enfer. Elle aimait trop Dieu pour le croire implacable. Les autres sœurs me parlaient du diable, de ses cornes et de sa fourche. Elles se signaient en tremblant lorsqu'elles m'annonçaient les supplices qui m'attendaient. Marie des Anges me disait avec sa douce voix, « Songez-y donc, ma chère petite, le bon Dieu ne vous aimera point, vous ne le verrez pas. Et il vous sera défendu de l'aimer. » Pour elle, c'était la véritable torture. Je tins bon néanmoins. Je restai enfermée 8 jours au pain et à l'eau, faisant école et m'exaltant par la résistance même. Notre directeur, homme assez borné,
s'imagina de m'écrire des lettres pour me convaincre. Il y employa beaucoup de papier et beaucoup de raisonnements inutiles et stupides. Ce n'était point là de la vraie religion. Quant à moi, j'ergotais, et cela me ravissait. Beaumont eut moins de courage, elle céda. C'était une gourmande, et le pain sec la convainquit. J'ai encore des lettres du père Marais, et je ne les reproduis pas. Elles me semblent trop vides et trop inertes. Celles que m'écrivait ma tante me touchaient bien autrement. Elles parlaient à mon cœur, ainsi que la sœur Marie des Anges, et mon cœur était tenté de les entendre. Il résistait de toutes ses forces à mon esprit, mais celui-ci était d'une trempe si entêtée, si vaniteuse, qu'il se croyait obligé de tenir bon. J'étais une manière de philosophe en herbe. On eût dit que je devinais les gens de ce temps-ci et que je voulais les devancer dans leurs sottises. Ma tante trouva la chose grave. Elle fit exprès le voyage de Paris pour tâcher de déraciner chez moi ses principes et ses tendances. Je l'écoutais avec respect, avec tendresse, mais je lui répondis très fermement « Je n'y puis rien, il ne dépend pas de moi de croire ou de douter. Pardonnez-moi, ma bonne tante, aimez-moi malgré tout, mais je ne puis. » La chère créature pleurait à chaudes larmes, faisait des signes de croix, répétant que j'étais perdue et que mon âme se vouait d'elle-même à l'enfer. « Hélas !» ajoutait-elle, « je mourrai bientôt et il me faudra vous quitter pour toujours. Nous ne nous retrouverons plus sous ces ombrages éternels où l'on est si bien, si heureux ensemble, où l'on voit, où l'on aime Dieu d'un amour ineffable. Ah, mon enfant, quelle douleur pour moi en quittant ce monde !» Mademoiselle de Chanron se trompa sur moi et sur ce qu'elle pouvait attendre de ma faiblesse. Elle me crut plus accessible au raisonnement qu'à l'affection, et cela n'était point ainsi. Mon esprit avait un parti pris de ne pas céder. Mon cœur était bien plus facile à séduire. Et du moment où il lui résistait, c'est que la conquête était impossible. Elle ne le comprit pas et se chercha un auxiliaire qui devait, croyait-elle, triompher de tout. Elle arriva un jour au parloir avec un abbé très agréable, très souple, très insinuant, d'un grand mérite et d'une science incontestable, dont le talent oratoire s'était révélé d'une façon sublime à la mort toute récente du feu roi. Massillon, enfin. Ma famille l'avait connu autrefois, et ma sainte tante s'y était si bien prise qu'elle l'intéressa à l'œuvre de ma conversion, et l'amena à la Madeleine pour repêcher mon âme, comme disait Beaumont, devenu hypocrite, et voilà tout, au lieu de se convaincre. Je fus ébloui de cette visite. Massillon était le héros religieux du jour. On ne parlait que de lui dans les couvents et chez les dévotes. Sa magnifique oraison funèbre de Louis XIV occupait la renommée, et plus encore, un fait qui se racontait partout, qui n'était point vrai néanmoins, mais que je dirais nonobstant, parce que c'est un des plus beaux tableaux que je sache, un des plus saisissants. Et c'est aussi pour la philosophie chrétienne et incrédule un superbe sujet de réflexion. On prétendait donc que Massillon avait été mandé au lit de mort de Louis XIV alors que Madame de Maintenon l'avait abandonné déjà et que ses aumôniers ordinaires lui avaient donné les sacrements, suivant leur charge, suivant les étiquettes établies. Par parenthèse, le grand aumônier de France était alors le beau cardinal de Rohan, évêque de Strasbourg, fils très connu, sinon reconnu, de Sa Majesté Louis le XIVe et de Madame de Soubise, son éternelle maîtresse. Ainsi, le cardinal assistait son père. Il y pensait bien moins qu'à la perte de son roi et à ses querelles avec l'archevêque de Paris qu'il s'agissait d'écarter. Le moribond étant son paroissien, il avait le droit de l'escorter jusqu'à la fin, ce que la cabale ne voulait absolument pas. Enfin, Massillon fut, dit-on, appelé par le roi lui-même. Il lui donna les derniers conseils, l'encouragea de sa voix puissante à ce dernier et terrible passage. Au moment où le premier médecin, ayant tâté le pouls de son malade, prononça les funèbres paroles « Le roi est mort », tout ce qui se trouvait là tomba à genoux par un mouvement involontaire. Massillon seul, debout sur l'estrade, allongea la main sur cette tête illustre, sur cette tête qui depuis si longtemps gouvernait le monde et faisait tout plier à ses caprices. Et, levant les yeux au ciel, il dit « Dieu seul est grand, messieurs !» Je n'ai jamais rien entendu citer de plus magnifique, de plus sublime et dans une pareille situation. « Si non è vero, è ben trovato !» ainsi que le disent les Italiens. Massillon commença son discours si célèbre par ces mêmes mots. Mais, bien qu'il soit fort à remarquer, cela ne se compare point à ce que l'on vient de lire. L'occasion fait tout. Chapitre 6. Massillon m'écouta raisonner sans m'interrompre, avec la confiance d'un homme sûr de lui-même. Il me fit quelques questions auxquelles je répondis en docteur, ayant, Dieu me pardonne, presque envie de déniaiser l'évêque et me flattant d'y réussir, en vraie folle que j'étais. Il sourit d'un air tranquille et me dit avec un geste de sa main pour m'imposer silence « Assez, mademoiselle, assez pour aujourd'hui. Je vois ce que vous pensez. Et dans notre première conversation, je tâcherai de vous convaincre. J'en ai un profond désir. Mademoiselle de Chanron est une de mes bonnes amies. Et ne fût-ce que pour elle, je voudrais vous amener à m'entendre. Quant à changer mon opinion et ma foi, permettez-moi de n'en rien faire. Je crois parce que j'aime, et c'est la meilleure de toutes les croyances, la plus solide. Dieu est le maître de mon cœur et de mon esprit. Si je parviens à vous conduire au même point, vous me remercierez en ce monde et dans l'autre. » Il avait fort raison, le bon évêque, mais je n'ai jamais pu arriver là, et je ne puis encore maintenant, malgré mon grand âge, malgré ma raison, malgré ma volonté, malgré mon cœur même. Cet esprit rebelle, nourri à l'école des sceptiques de ce siècle, ne veut pas se soumettre. J'ai beau faire, rien ne le dompte. Massillon n'y réussit pas plus que moi. Il vint cependant plus de 10 fois de suite. Enfin, il y renonça avec douleur, avec bonté, mais il y renonça. « Mademoiselle, me dit-il, Dieu vous avait créé pour être un ange. Je ne sais quel mauvais esprit a fait de vous un démon. » Le mot était dur. Le sourire qui l'accompagnait avait tant de charme, tant d'indulgence, qu'on ne pouvait lui garder rancune. « Dieu est bien grand, ajouta-t-il. Il peut tout. Je prierai pour vous. Mes indignes prières ne seront peut-être pas exaucées. Pourtant, la bonté du Seigneur est plus immense encore que mon indignité. Espérons. » Il me quitta. Ma pauvre tante dut renoncer à ses rêves et mes parents à leur projet d'avenir pour moi. Le moyen de faire entrer en religion une petite fille qui repoussait les pratiques et les croyances du couvent. Il ne leur restait qu'à me chercher un mari ou à me rappeler près d'eux pour faire de moi une tante à la manière des Anglais, c'est-à-dire la gouvernante des enfants de mon frère. Je ne me sentais pour cela aucune vocation. Je criais très haut que je prendrais le premier établissement convenable, que je le provoquerais même, et que je ne comptais pas coiffer Sainte-Catherine. Ma mère et mon père me répondirent qu'avec le mari, j'eusse à chercher une dot. Je répliquai qu'une fille faite comme moi n'avait pas besoin d'argent. « Grand bien vous fasse, mademoiselle de Chanron, » reprit mon père. « Passez-vous d'argent si vous pouvez. Moi, je ne sais pas de mari qui n'en demande point. » La duchesse de Luynes, ma tante, me fit venir chez elle assez souvent à cette époque. Elle entreprenait, disait-elle, de me marier, et je la laissai faire. On me trouva belle dans son salon, on me vanta, Il vint quelques galants tourner autour de moi, aucun assez riche pour passer par-dessus mon manque de richesse, ou assez capable pour y suppléer. J'en soupirais. Cependant, je ne me décourageais point. Elle me pria une fois de l'accompagner à Dampierre et d'y rester avec elle quelques semaines. J'étais hors des classes. J'avais 17 ans, on me permit d'accepter, d'autant plus que ma mère en était ravie et m'y poussait de toute sa force. Nous partîmes, la duchesse et moi, enchantées l'une de l'autre et sans emmener personne. Nous devions être en famille, m'avait-elle dit. C'était pour se reposer du monde. Nous n'aurons qu'un secrétaire, de monsieur de Luynes, dont nous raffolons, qui a bien de l'esprit et qui fera son chemin. Comme vous en parlez, madame, ne me le proposeriez-vous point pour mari ? Demandai-je en riant. Allons donc, répondit-elle avec un mouvement d'épaule fort méprisant. Vous voyez des maris partout. C'est un homme de rien, fils naturel de je ne sais qui. Est-ce qu'il oserait seulement y penser ? La conversation en resta là. Je ne m'occupai point du secrétaire, je ne le vis point de la journée en arrivant à Dampierre. Au souper seulement, le soir, lorsque M. de Luynes entra, j'aperçus derrière lui un des plus beaux garçons qui fussent au monde, et d'une tenue, d'une façon, d'une élégance telle qu'on n'en pouvait trouver de semblable qu'à la cour et parmi les seigneurs. Je crus que c'était au moins un duc et pair. « Mademoiselle de Chanron, dit la duchesse, je vous tiens la promesse que je vous ai faite. Nous voilà bien seuls. Monsieur de Luynes, vous et monsieur Larnage, le secrétaire dont je vous ai parlé. » Je ne pus retenir un mouvement involontaire de surprise et une révérence plus profonde qu'il ne revenait à un secrétaire. Il me la rendit comme à la nièce de madame de Luynes, c'est-à-dire fort respectueusement. Mais il me sembla qu'il me regardait avec moins de respect, cependant. Les jeunes filles comprennent merveilleusement les nuances de ce genre. Il fut très à son aise. Le duc et la duchesse l'y autorisaient. Il parla avec un esprit charmant, avec une mesure parfaite, et de toutes choses. Sa conversation était un vrai feu d'artifice. Il savait tout, il avait tout vu, tout lu, et bien qu'il fût très jeune encore, c'était une érudition de bénédictin. Je l'écoutais avec délice, hasardant quelquefois, timidement, un mot qu'il ne manquait pas de relever. J'avouais de bonne foi mon ignorance, je convenais qu'on ne m'avait rien appris et que j'avais grande envie de savoir. Rien de plus facile, mademoiselle, j'en suis sûre, vous n'avez qu'à demander. Avec une intelligence telle que la vôtre, on peut bien vite tout comprendre et tout retenir. « Mais, dit mon oncle, vous qui savez tout, monsieur Larnage, que ne lui enseignez-vous au moins ce qui est nécessaire? Vous voilà ici ensemble pour quelque temps. Mettez-le à profit. Travaillez. Le voulez-vous ? » ?»« Je suis aux ordres de mademoiselle de Chanron, et elle me ferait bien de l'honneur si elle me permettait de lui donner des leçons. » Quel élève j'aurais là ! Ah ! Je ne demande pas mieux, répondis-je étourdiment. Madame de Luynes ne disait rien. Elle détourna même la conversation. J'eus l'idée qu'elle avait quelque crainte d'un rapprochement entre ce jeune homme et moi. Je fus bien surprise lorsqu'en sortant de table, elle me dit « N'apprenez donc pas tout cela, ma mignonne, vous deviendriez insupportable. » J'ai connu plusieurs femmes pédantes, avec lesquelles il n'y avait pas moyen de vivre. Vous en savez assez, je vous l'assure. Trop de science effraie les maris. » Je n'étais point de cet avis, au contraire. Je le dis à la duchesse, et heureusement, M. de Luynes fut pour moi. On discuta beaucoup, et l'on convint enfin que M. Larnage, à dater du lendemain, commencerait à me donner une teinture de quelque science et que nous aurions des leçons fréquentes tant que durerait mon séjour à Dampierre, sans préjudice de Paris, où nous en aurions aussi. Je place ici ces détails par une raison dont vous ne vous doutez guère. Cette aventure de ma jeunesse a été l'embryon de La Nouvelle Héloïse. Je la racontais un jour devant Rousseau. Elle intéressa tout le monde et lui seul ne m'en parla pas. Il vint le lendemain chez moi et me remercia. « Vous m'avez donné une pensée que je cherchais, » ajouta-t-il. « Vous verrez. » Quand le livre fut fait, il me l'apporta et me demanda si j'étais bien aise d'avoir fourni le modèle de Julie. Je lui promis de le lui dire après lecture. Hélas, qu'elle me parut ennuyeuse, cette Julie, et comme j'espérais ne lui point ressembler. Et Saint-Preux ? Mon larnage était tout autre chose. Quant à M. Dudefant, il n'avait rien de commun avec le mari si bon et si philosophe. Il est vrai que Rousseau ne le connaissait pas. Poursuivons l'histoire de la vraie Julie, qui n'est pas tout à fait celle d'Héloïse, au moins. N'en ayez pas cette mauvaise opinion. M. Larnage avait une manière d'enseigner toute charmante, bien que très respectueuse. J'y pris un goût extrême, jusqu'au point de passer mes journées à écrire, à lire, avec ou sans mon maître, et de m'éveiller le matin dans la joie de ce que j'allais faire. C'était une vraie partie de plaisir. Je n'approfondissais pas, j'effleurais. J'apprenais enfin l'orthographe, que mes religieuses m'avaient à peine montrée. C'étaient les éléments premiers. Madame de Luynes n'avait changé de parti et s'intéressait à mes progrès. Monsieur de Luynes en riait, et Larnage prenait cette situation au sérieux. Moi, je ne sais trop ce que j'éprouvais. Un soir, nous causions d'astronomie. Le jeune professeur nous enseignait à connaître les astres, et nous nous promenions tous dans le parc. La duchesse se plaignit du froid. Le duc nous avait abandonnés pour jouer à l'ombre avec l'aumônier et un gentilhomme des environs. Nous restâmes seuls, Larnage et moi, pour voir lever je ne sais quelle planète. La nuit était superbe, les fleurs de rosier embaumaient, et il faisait un de ces temps merveilleux qui donnent l'envie de vivre, le besoin d'aimer, la rage de le dire. Le tête-à-tête devenait dangereux. Madame de Luynes était trop pieuse et trop duchesse pour le supposer. Les autres n'y songeaient pas. Nous marchions les yeux en l'air, et peu à peu la conversation tournait vers le sentiment et la rêverie. J'étouffais. C'est-à-dire, mon cœur et mes 17 ans étouffaient dans ma poitrine, et Larnage n'était pas plus calme que moi. Nous ne parlions plus, nous sentions seulement. « Mademoiselle, me dit-il tout à coup, et sa voix était si émue qu'elle me fit tressaillir. « Mademoiselle !»« Monsieur ? » répliquai-je comme une personne réveillée en sursaut. « Vous êtes bonne, vous avez un grand esprit, vous êtes jeune, vous m'entendrez. Vous ne vous moquerez pas de moi. »«
Je ne suis pas moqueuse, soyez-en sûre, monsieur, » lui répondis-je.
« Oh, je vous connais bien. Aussi je vais parler. Que penseriez-vous d'un jeune homme sans naissance avouée, sans fortune, et qui aurait l'audace d'aimer une demoiselle, d'aspirer à lui plaire, d'espérer sa main plus tard, quand il l'aurait méritée, si toutefois elle pouvait être méritée par quelqu'un? Qu'en penseriez-vous ?»«
Si cet homme a du mérite, » répondis-je, « je penserais que c'est une noble et louable ambition, et s'il n'en a point, je penserais que c'est une impertinence. »«
Et pourriez-vous l'aimer, cet homme, mademoiselle ? Pourriez-vous encourager ce que vous appelez une noble ambition ? Dites-le-moi. » Je comprenais bien. Mon cœur en battait quelque peu. Mais j'avais en même temps cette honte et cette joie d'un premier aveu reçu. Je ne voulais accepter complètement ni l'un ni l'autre. Je n'aimais pas tout à fait. J'étais touchée et coquette, j'étais curieuse aussi. J'acquérais de l'importance à mes propres yeux en apprenant que j'étais aimée. Cela me grandissait. Je sortais de l'enfance. c'était bien plus solennel que de quitter les fourreaux. Pourtant, cela n'était guère plus près de mon cœur ce jour-là. « Mademoiselle, reprit-il impatient et fiévreux, vous ne répondez point, me comprenez-vous ?
Je vous ai répondu, monsieur. »
« Oui, pour un autre. Mais pour moi, dites, ne voyez-vous pas que je souffre ?»«
Monsieur, je ne veux pas que vous souffriez. »
Oh, « mademoiselle, si vous saviez combien je vous aime !» J'eus un mouvement de naïveté innocente à le rendre fou. J'étais bien innocente, en effet, et de bien bonne foi. Je répliquai en le regardant.
« Mon Dieu, monsieur, il dépend de vous de me l'apprendre !»
Chapitre 7. L'arnage se retourna comme un homme qui ne sait ce qu'il doit croire. Il n'osait pas supposer un amour trop au-dessus de ses espérances, si ce n'est de ses prétentions. Il balbutia quelques mots, espérant que je répéterais et que j'irais plus loin peut-être. Mais je ne dis rien, et mon œil seulement l'interrogeait.
« Eh bien, mademoiselle, reprit-il, voyant que nous pouvions rester ainsi jusqu'au jugement dernier. « Eh bien, monsieur, j'attends. »«
Vous attendez, mademoiselle ? Et quoi ?»«
Mais que vous me disiez, que je sache. »«
Ah, mademoiselle, vous ne m'aimez pas. »«
Ce n'est point là ce que j'ai besoin d'apprendre, monsieur. C'est de vous qu'il s'agit. »
« Vous me désespérez, mademoiselle, je ne sais que penser. Ma tête est un chaos. L'espérance est d'une audace à ne pas supporter. Et la crainte, c'est la mort. »
J'étais jeune, j'étais naïve, j'étais innocente, mais j'avais une curiosité enragée et un instinct très développé, je vous le jure. Je cherchais à comprendre et je voulais savoir. Les exclamations, les plaintes de l'arnage ne me contentaient point. J'attendais avidement. Ne devinant pas ce sentiment de la jeune fille, il s'y trompa. « Au nom du ciel, me permettez-vous de parler ? » s'écria-t-il dans un transport qui me sembla inexplicable. « Il y a une heure, je vous le demande, monsieur. »«
Mademoiselle, je vous aime !» répéta-t-il, troublé au dernier point.
« Vous l'avez déjà dit. Après,
je voudrais obtenir votre main. Je voudrais être puissant et riche pour devenir digne de vous. Mais si vous ne m'encouragez point, comment serais-je capable ?»
Je commençais à être embarrassé. Je me tus.
« Je vous semble très osé, très hardi, mademoiselle. L'amour rend tout possible. Je ne suis point, d'ailleurs, aussi dénué de moyens et de protection que vous le pensez. Et pour que vous en soyez convaincu, je vous confierai sur votre parole le secret de ma naissance. J'ose espérer que vous ne le trahirez point. »
« Moi, monsieur ? Oh, comptez sur moi !»«
La condition vous est connue, sans doute. Monsieur le duc et madame la duchesse en ont été prévenus par mes protecteurs. Une amie de ma mère m'a confié à leur bonté. Ils ignorent cependant le nom de mes parents, et vous allez le savoir, mademoiselle. C'est tout mon avenir que je remets entre vos mains.
Soyez assurée, monsieur, que je suis très discrète. »
Je grillais de curiosité. Je tremblais qu'on ne nous interrompît. Heureusement, mon oncle et ma tante s'occupaient de leur jeu et nous croyaient dans les étoiles. Je suis le fils d'une demoiselle de condition, élevée à Saint-Cyr, pauvre, belle, bonne, adorable. Ah, quand vous connaîtrez ma mère !»
Elle vit encore ?»
Elle vit. Elle est presque aussi jeune que moi. Je vous le promets, on la prend pour ma sœur lorsque nous sortons ensemble. Elle a l'honneur d'être proche parente de monsieur le comte de Ferriol, ambassadeur de Sa Majesté à Constantinople. »
« Et monsieur, votre père ?»
Ah, mon père ! » Son front se rembrunit, il baissa les yeux et hésita quelques instants.
« Mon père, je ne veux pas l'accuser, mais il a cruellement trompé ma pauvre mère. Il a abusé de sa jeunesse, de sa confiance,
Et puis il l'a abandonnée ensuite avec moi. C'est affreux, mademoiselle. Je devrais le maudire, et je ne le puis. La nature parle. Mon cœur est déchiré en deux. J'espère toujours que plus tard, mon père reviendra vers madame votre mère, n'est-ce pas ?
Oui,
il reviendra. Il reconnaîtra ses torts. Il tendra la main vers nous. C'est sur lui que je compte pour mes projets de fortune.
Il est donc puissant ?
Il l'était et le sera encore. Sa naissance, la portée de son génie, pour tout dire en un mot, c'est monsieur le duc du Maine.
Le duc du Maine ?
Répétai-je étonné. Le duc du Maine, lui-même. Vous comprenez mes espérances. Vous excuserez peut-être mon audace.
Mais, monsieur, dis-je vivement, vous êtes le petit-fils de Louis XIV.
Oui, mademoiselle, répondit l'arnage, relevant fièrement la tête, et je veux me montrer digne de cet honneur. J'éprouvais comme un étourdissement à cette révélation. Nourri par ma famille, élevé par mes religieuses dans une admiration excessive poussée jusqu'au culte pour le feu roi, l'arnage me semblait le fils de Jupiter. C'était comme un rêve, comme une de ces gloires d'opéra dans les nuages de laquelle on voit descendre les demi-dieux. Je le trouvais un bien autre personnage que moi, Marie de Chanron. Il me parut qu'il m'accordait beaucoup d'honneur, et je fus sur le point de lui faire la révérence. Il ne devina point cette impression, lui, pauvre bâtard. Lui, accoutumé à une position secondaire, à des humiliations souvent. Il interpréta mon silence à son désavantage et se retourna vivement de mon côté.
Ah, mademoiselle, je le sens bien, je suis perdue. Vous ne daignez plus ni m'entendre ni me voir.
J'avais déjà fait beaucoup de chemin dans le sens qu'il ne prévoyait pas. Je trouvais la position d'une petite bru de Louis XIV assez sortable pour une fille sans dot, surtout lorsque le mari était fait de cette façon-là. J'ouvrais la bouche pour lui dire un mot d'espérance lorsque mademoiselle de Luynes nous rappela. Je fus obligée de me contenter d'un regard. Il me glissa seulement dans l'oreille.
« Mademoiselle, permettez-moi de vous voir demain. »
Il ne savait ce qu'il disait, le brave garçon. « Ne nous laisse, seul à seul ?» Les amoureux ont toujours déraisonné. Je pense qu'en ce siècle de raisonnement, ils déraisonnent encore mieux à force de raisonner. Ils doivent être d'ennuyeux personnages, et les jeunes femmes d'aujourd'hui ont bien du mérite à les écouter. Je n'y voudrais pas être condamnée. Quoi qu'il en soit, pour en revenir à mes premiers amours, à ces amours qu'on n'oublie point, même lorsqu'on a cessé de les regretter, j'étais comme étourdi. Je ne parlais plus, je n'entendais plus, à force de penser. Madame de Luynes en plaisanta fort, le duc aussi. On me demanda si j'étais dans les astres. Je répondis en idiote que je n'en savais rien. Je ne dormis pas de la nuit. Je me levai avec l'aurore pour aller courir dans le parc. J'avais deux démons aux oreilles, l'ambition et l'amour. Je les écoutais l'un et l'autre, et je n'étais pas éloignée de les croire. Mon étoile, bonne ou mauvaise, m'envoya monsieur de Luynes, qui vint causer avec moi, s'étonnant de me voir si matin hors de chez moi. Je brûlais de savoir bien des choses. J'étais plus adroite que mon oncle. J'espérais le faire parler sans qu'il me devinât, et je me mis à l'interroger. J'avais un moyen tout simple d'entrer en matière. On s'occupait fort des enfants que la comtesse de Vernes, sa sœur, avait eus du duc de Savoie, et leur état se disputait. Monsieur de Luynes, très sévère sur l'honneur, avait longtemps tenu rigueur à la comtesse. Mais, en lui pardonnant, il voulut remplir envers elle les devoirs d'un frère et savoir bien au juste quelle position lui serait faite, ainsi qu'à ses neveux. J'entamai la conversation sur ce sujet qui lui tenait au cœur. Il y donna en plein, et me voilà courant bride abattue dans la fortune des bâtards. la conclusion de mon oncle fut celle-ci. Le feu roi a traité ces bâtards comme on ne les traite jamais. Monsieur de Savoie annonce l'intention de l'imiter. C'est au mieux, mais nulle part il n'en est ainsi. En Angleterre, en Allemagne, en Espagne, partout enfin, les bâtards du roi et des princes ne sont rien et n'arrivent pas à grand-chose. « Mais, monsieur, interrompis-je, car tout cela ne satisfaisait pas ma curiosité, et les bâtards des bâtards ?»«
Oh, par ma foi, répliqua-t-il déconcerté, qui diable y a jamais songé ? Les bâtards des bâtards, cela ne signifie guère. »
« Comment, monsieur ? Si monsieur le duc d'Humaine et monsieur le comte de Toulouse avaient des bâtards, ils ne seraient rien ?»«
D'abord, le duc d'Humaine et le comte de Toulouse en sont fort incapables, et nul ne les en accuse jusqu'ici, les parfaits gentilshommes qu'ils sont. Mais quand ils en auraient chacun autant que le feu roi, cela ne changerait rien à la position de personne. » Les bâtards des bâtards. Ah bien oui, c'est assez des pères, c'est trop pour le souci qu'ils nous donnent et les éternelles querelles qu'ils suscitent entre nous. Le feu roi nous a fait grand tort en nous léguant ces embarras-là. Monsieur le régent n'a pas encore fait assez casser son testament. Les morceaux qui nous restent sont des plaies à la monarchie.
Et cependant, monsieur, les enfants du duc d'Humaine sont les petits-fils de Louis XIV.
Sans doute, autant qu'ils sont nés en légitime mariage. Autrement, ils ne comptent point et ne compteront jamais.
L'ambition était déjà tuée par cette certitude. Restait l'amour. Il n'était pas né encore, et la mort de sa sœur devait, dans tous les cas, l'empêcher de grandir. Je quittai M. de Luynes plus que jamais occupé de mes pensées, et plus indécise que je ne l'étais auparavant. J'avais une illusion de moins. Le fantôme du grand roi était tombé sous les paroles de mon oncle. L'arnage vint à la leçon, pâle et tremblant. Il fut d'abord fort troublé, puis il s'anima et arriva jusqu'à l'éloquence. En me faisant faire un extrait d'histoire, il raconta d'une façon brillante la vie de Jules César, ses succès, ses triomphes. On voyait qu'il aspirait comme lui à la conquête du monde et venait pour me l'offrir, pour le mettre à mes pieds. Ma petite vanité n'en fut pas médiocrement flattée. Nous restâmes ainsi un mois à Dampierre, un mois pendant lequel je passai par toutes les phases de l'amour innocent et pendant lequel j'entendis plus de vérité de cœur que dans toute ma vie. L'arnage était fou, ivre de sa passion. Il m'écrivit des lettres plus brûlantes et plus naturelles que celles de Saint-Preux. Je ne répondis point comme Julie, mais je répondis pourtant. C'étaient des billets de petite fille. Mon amant était ma poupée, et je n'y entendais pas plus de finesse. Je les ai relus bien des années après, et je me suis fort moquée de moi. Ces belles amours durèrent, de cette fois-là, bien peu de temps. Ensuite, nous quittâmes Dampierre. L'arnage, au désespoir, ne put se consoler, et la correspondance continua par le moyen de ma femme de chambre. Il vint même au parloir, où nous causions à travers la grille, sous le manteau de la science et de la littérature. Ces entrevues mystérieuses me causèrent plus d'émotion qu'à Dampierre. Je ne sais trop ce qui serait advenu, d'autant plus qu'il appela sa mère à son secours, et que cette charmante femme me séduisit encore plus que lui. Elle était, on le sait, proche parente des Fériols, et s'appelait Madame de Créancy. C'est par elle que j'ai connu Pont-de-Velle et sa famille. Comme tout s'enchaîne. Ma mère mourut sur ces entrefaites. Je partis pour la Bourgogne, et je ne vis plus l'arnage. Notre histoire n'est cependant pas finie. On la retrouvera souvent, et dans d'étranges circonstances. Il ne cessa de m'écrire, et n'a cessé qu'à sa mort. Pauvre l'arnage. C'était un bon et noble garçon. Je me suis prise à le regretter beaucoup, depuis hier que j'ai commencé d'en parler. Vous verrez bien plus tard. »
Madame a cessé de dicter et je n'en suis pas fâchée, car il est 6 heures du matin. Mais pour elle qui n'y voit point, il n'y a ni jour ni nuit. Voilà donc son premier amour. Je suis bien aise de rapprocher ce qu'on a lu d'une petite scène qui a eu lieu ce matin devant moi. C'est un parallèle assez curieux. Madame parle de monsieur de Pont-de-Vel, et personne n'ignore que ce fut, avec le président Hainaut et monsieur de Frémont, le plus fidèle de ses amants. Elle ne s'en cache pas, et on ne se cache de rien devant moi. Sous prétexte que je n'ai pas de dot et que je ne me marierai probablement jamais, on me raconte tout ce que mon mari m'apprendrait, et même ce qu'il ne m'apprendrait pas. Je ne me fais pas plus de scrupules de le répéter. Il faut prendre sa position de bonne grâce. Monsieur de Pont-de-Vel est le frère de monsieur d'Argental, tous les deux neveux du comte de Ferriol, l'ambassadeur. Ce sont les fils de son frère. Ils ont été de la société la plus constante de madame du Deffand. Monsieur de Pont-de-Vel vient encore chaque jour, excepté ceux où il est en train de mourir, ce qu'il achèvera certainement bientôt, car il n'en peut plus. Il était hier au coin du feu, madame la marquise dans son tonneau, tapant avec ses baguettes, et moi les regardant tous les deux. Madame se prit à dire « Pont-de-Vel, depuis que nous sommes amis, il n'y a jamais eu un nuage dans notre liaison, je crois. »
Non, madame.
N'est-ce pas parce que nous ne nous aimons guère plus l'un que l'autre?
Cela peut être, madame.
Ils dirent cela aussi froidement que s'ils eussent parlé du roi de la Chine. J'en eus le cœur tout transi. Voilà donc ce qui reste d'une affection de 60 ans dans ces deux cœurs-là.
Il est vrai que ces deux cœurs-là ont près de 160 ans à eux deux.
Chapitre 8. J'avais quitté Paris, Larnage, madame de Luynes, madame de Créancy, et j'étais dans le manoir paternel, en grand deuil, pleurant ma mère, plutôt parce que les autres la pleuraient que par ma propre douleur. Je me la rappelais à peine. Depuis tant d'années, j'étais séparée d'elle. Je savais qu'elle était bonne, qu'elle m'aimait, qu'elle me gâtait même, alors que les autres ne me gâtaient pas. Mais chez moi, l'esprit a toujours été la qualité dominante. Ma mère ne parlait pas à mon esprit autant que ma tante, et je lui préférais ma tante par cette raison-là. Je vécus à Chanron dans la retraite, assez triste, songeant souvent à Larnage qui m'écrivait des volumes, regrettant Paris, désirant me marier pour sortir de cette immobilité physique et morale, et ne découvrant aucun épouseur qui voulût de moi ou dont je voulusse. C'est une sotte idée que de placer le bonheur dans la conduite d'un autre, et pourtant la vie des femmes n'est pas autre chose. Condamnées à une perpétuelle dépendance, elles subissent malgré elles le sort qu'on leur impose. Elles en supportent les conséquences, et lorsque ces conséquences les écrasent, c'est encore à elles qu'on s'en prend. La justice du monde est faite ainsi. Toute la philosophie possible ne la rendra pas meilleure. J'en ai trop souffert moi-même pour l'accepter. Cette existence de campagne, où mon esprit trouvait si peu d'aliments, me devenait de plus en plus insupportable. J'aurais épousé le diable s'il eût été vêtu en gentilhomme et s'il m'eût assuré une vie médiocre. Hélas, il ne se présentait que des diables sans le sou, et la misère m'a toujours effrayée. Je tenais bon aussi au souvenir de Larnage. Je le supposais dans l'avenir petit-fils reconnu du souverain de fait, sinon de droit. Car dans ma politique, monsieur le duc du Maine ne pouvait manquer de l'emporter sur monsieur le duc d'Orléans et de le supplanter à la régence. Le pauvre sire m'écrivait chaque semaine ses espérances. Il bâtissait des châteaux magnifiques dont j'étais le but. Son amour pour moi était si ardent que je m'échauffais à son reflet et qu'il me semblait l'aimer aussi quelquefois.
C'était alors des extases magnifiques sous les grands arbres du parc. Je voyais mon amant dans sa gloire. Je le déifiais ainsi que le font les pauvres créatures à 17 ans, avant de savoir par leur expérience qu'il n'y a d'autre Dieu que celui qui est là-haut, et que les autres sont de contrebande.